We are going to hold a hearing on the situation of women and children at the border area of Haiti. This hearing has been requested by Reciprod, Trois Men Quanamint, and participants include members of Reciprod and representatives from the state of Haiti. The hearing objectives, according to the request done by the petitioners, is to share with the Commission information and observations on the situation on the border zone between Haiti with Dominican Republic, particularly the situation of women and children. First, the petitioners will have 20 minutes to make their presentation, then the same time for the state, and after that the commissioners will raise some questions, and there's going to be a further time for the petitioners and the state. So the petitioners have the floor for 20 minutes now.
Haïti. Auprès des lauréats, mesdames, mademoiselles du staff du secrétariat exécutif de la CIDH, mesdames, mademoiselles et messieurs de l'auditoire, par mon organe, les réciprodes adressent ses plus vifs remerciements de l'avoir invité une seconde fois à se présenter pour vous exposer l'état de la situation générale des droits de la personne humaine Haïti, pour vous retracer les films des événements qui se sont produits au cours de ces derniers mois dans ces petits coins ravagés par la violence et d'une façon spéciale la situation humaine des femmes et des enfants sur les zones frontalières haïtiano-dominicaines. Maintenant, un peu de l'organisation. Les Réciprodes est une organisation de la société civile haïtienne. Elle travaille dans beaucoup de domaines tels que l'éducation, l'agriculture, le développement durable, l'environnement et surtout dans les domaines des droits humains. Fondée en janvier 2004 dans un contexte sociopolitique difficile où la violence de toutes sortes faisait ravage, où les pouvoirs système politique d'alors arrête, assassine tout ce qui était opposé avec sa manière de faire. Une organisation de défense des droits humains a vu le jour depuis ces jours. On n'a cessé pas de travailler, de faire la promotion et de défendre les différents droits fondamentaux de la personne humaine, soit des séminaires, soit par la porte, soit la porte à porte, soit par la bouche à l'oreille. Tantôt à notre bureau et dans les annexes, tantôt dans les champs, tantôt sur les places publiques. Nous avons assisté pas mal de victimes conjugales, de viols sur la zone frontalière Wanamet-Darbonne. Pour nécessiter que cela, sur les plans éducation, chaque année, et c'est depuis 2006. Notre réseau associatif a scolarisé plus d'une centaine d'enfants. 50% garçons et 50% filles. Nous sommes une organisation qui fait la promotion de l'équité des genres. Wanamet se trouve dans le département du nord-est d'Haïti. Elle est une ville frontalière, ce qui implique qu'elle est très commercialisée. Étant une ville frontalière, il y a une sorte de rentrée-sortie qui se fait entre Darbon et Wanamet. Et ceci chaque jour, même les dimanches. Donc, vous pouvez vite comprendre qu'il y a des cas de violation des droits de la personne humaine qui se passent jour après jour dans cette commune. Ainsi, le Réciprod est une des organisations qui évolue à Wanamet et qui fonctionne dans le secteur des droits humains. Elle est la plus sollicitée par la population wanamétaise. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette popularité. C'est en raison de la qualité et de l'efficience de notre travail dans la vulgarisation des conventions et déclarations américaines des droits de l'homme. Citons par exemple des séminaires et des porte à porte que nous avons organisé sur la Déclaration américaine des droits et des droits de l'homme, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme Belém do Pará, Convention américaine relative aux droits de l'homme. Et cette année, nous enseignerons de présenter des émissions sur des stations de radio pour pouvoir être certaine qu'on a touché toutes les couches sociales de Wanamet, en particulier, et tous les départements du Nord-Est en général. Les réciproques travaillent aussi dans le domaine de la dénonciation et nous assistons suivant nos moyens des victimes qui n'ont pas de moyens de payer les services d'un avocat. Également, dans le cadre de notre travail humanitaire, nous donnons un plat chaud par jour, 6 jours de la semaine, à plus de 150 enfants et plus de 50 adultes, quoique tous ces efforts. Nous avons, c'est une goutte d'eau dans l'océan du besoin ou de la nécessité de cette population oubliée par les pouvoirs centrales. Pourtant, la qualité des coloriers qu'une personne a besoin pour fonctionner est de 2200. Tandis qu'un haïtien de conditions économiques précaires est en dessus de 1900. Nous venons de vous exposer, en grosso modo, notre travail sur l'angle des droits humains qui consiste à dénoncer les cas de violation, la vulgarisation des droits fondamentaux de la personne humaine et à réparer, selon nos moyens, les victimes ou les assister dans le but de trouver justice. Donc, Haïti est un pays qui n'a plus sa souveraineté alimentaire car on a importé par an plus de 700 millions de dollars US de nourriture. On met la parole à ma collègue.
Maintenant, rentrons dans le vif du sujet qu'est de vous exposer. De vous retracer le film des éléments qui se sont produits au cours de ces derniers 12 mois en Haïti, surtout les zones frontalières haïtiano-dominicaines. Car nous autres organisations de défense de la personne humaine en Haïti sommes vos yeux. Nul ne peut prétendre qu'en matière de droits humains que le gouvernement haïtien ne fait d'efforts, de progrès, parce que quand on compare les années de 2007-2008 à celles de 2009, vous pouvez constater qu'Haïti n'est pas le théâtre des événements violents, comme il était de 2004 au début de 2008. Il y a donc un effort considérable réalisé par le gouvernement Préval, Pierre-Louis, supporté par le Parlement, en adoptant et en votant des lois qui garantissent la démocratie et qui supportent le droit, comme la loi réglementant la garde à vue, les attributions et le fonctionnement du juge, de la légalité de l'arrestation, de la détention et la procédure de l'habeas corpus sur le salaire minimum qui est passé de 70 goudes à 125 goudes. Sur l'ajustement de salaire des juges, sur le CSPJ, sans compter d'autres efforts réalisés par le gouvernement. Mais malgré ces efforts, le gouvernement reste et demeure faible. Faible dans ses actes, faible dans la pratique ou dans l'observance de ses lois et dans tant d'autres qu'il a déjà ratifiés et adoptés par le biais du Parlement haïtien. Malgré tous ces progrès en matière d'élaboration ou en matière d'adoption de beaux textes de loi, ça n'empêche qu'il y a des cas de violation de droit que le Recyprod a enregistré. Ces cas de violation, en majeure partie, se produisent dans les provinces du pays, dans les coins les plus reculés et surtout sur les zones frontalières entre Haïti et République dominicaine, Waname Dabon. C'est ainsi que moi-même et certains membres du comité central du Recyprod avions été sévèrement persécutés après qu'on a décidé d'accompagner et d'assister les familles Odena Joassin. Ces derniers sont les parents victimes des 5 enfants enlevés par le neveu du vice-délégué de l'arrondissement de Wanamet de connivence avec un boucon. Ils ne savent jusqu'à présent si les enfants sont en vie ou pas. Ce cas est devenu la commission depuis lors et il nous préoccupe tellement que deux des responsables du Recyprod ont dû se rendre en République dominicaine pour pouvoir mener une enquête où ils ont rencontré le consul haïtien qui est basé en République dominicaine. Malgré toutes ces tentatives, tous ces efforts de la part de ONG, les parents de ces 5 enfants ne savent jusqu'à présent quand ils les verront. Pour ce, nous avons adressé une demande de mesure conservatoire à la commission en faveur des parents victimes, des témoins et en faveur de certains membres de l'organisation. Il faut signaler que d'après les dernières estimations des institutions publiques en Haïti, comme par exemple le ministère d'Intérieur, ministre des Affaires sociales, il y a plus de 8000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Ils sont de toutes sortes de conditions sociales et se trouvent dans plusieurs secteurs. Éducation, dans la construction, comme brasseros, dans le commerce, dans les batailles. Cette répartition, peu de Dominicains le font. Et ceux qui le font considèrent un ouvrier haïtien qui travaille, par exemple, dans la construction comme bête. Et c'est devenu monnaie courante. Cette mentalité gagne du champ. Tellement même les autorités dominicaines par les soldats dominicains qui se trouvent sur les frontières haïtiennes-dominicaines, qu'il s'agit de Waname, Malpass, en Sapitre, pour citer que ces zones frontalières, ils ont une même et une seule mentalité vis-à-vis d'un haïtien. Cette mentalité, elle est plus dégradante quand ça concerne un haïtien qui ne sait ni lire ni écrire. Le pire, les autorités civiles dominicaines ne font rien pour stopper cette mentalité. Cette idée machiavélique dans la pensée des Dominicains, au niveau du Recyprod, nous nous demandons si on inculque, si on ne forme pas dès son plus jeune âge le petit Dominicain de ne pas considérer une catégorie d'Haïtien comme être humain, comme personne qui est née avec tous ses droits et qui sont garantis par plusieurs textes de loi, comme la Constitution haïtienne étant d'autres textes qui ont consacré le droit inaliénable inaliénable de chaque individu, y compris un Haïtien. Malgré tout ça, le 7 mars dernier, les autorités dominicaines ont décidé de réouvrir la chambre haïtiano-dominicaine. Mais ça n'empêche pas la vaste campagne de dénigrement tant dans les stations de radio, tant à la télé, à l'école, sur les places publiques, continue comme si de rien n'était. Pendant toutes ces injustices de la part des autorités dominicaines, le gouvernement haïtien n'a rien fait, mais une note de presse pour condamner cette manière d'agir contre les ressortissants haïtiens. On dirait que le gouvernement haïtien donne une carte blanche au gouvernement dominicain pour violer les droits de ces pauvres et rudes travailleurs et commerçants. Ces derniers ne savent plus à quel saint s'adresser. Des fois, ils et elles vont travailler ou vendre de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en République dominicaine. En revenant pendant qu'ils ou elles sont sur la route, les soldats dominicains ont l'habitude de les arrêter pour les rançonner et dépouiller et des fois les tuer pour prendre tout ce qu'ils ont, qu'ils ou qu'elles ont sur eux. Citons deux cas. Le 3 juillet dernier, au marché Elias Pinas, qui fonctionne deux fois par semaine, lundi et vendredi, Jean-Willio Jules, un ouvrier haïtien revenant de la frontière pour rentrer chez lui, deux soldats dominicains l'interceptent, lui demandent de s'identifier. Ils l'ont demandé de vider ses poches. Il a refusé. D'un coup, à bout portant, les soldats l'a abattu froidement et lâchement. On a pris connaissance de cet acte grâce à un adolescent dominicain âgé de 17 ans qui suivait l'événement. Deuxième cas, en septembre 2008, sur la frontière Ouanaminthe-Dearborn, un commerçant père d'une adolescente de 13 ans l'a livré à deux, trois soldats dominicains dans le but de lui faciliter l'accès pour aller vendre à Dearborn. Les soldats ont violé la petite devant ces gens. De cas de violation des droits de la personne humaine, notre organisation ne peut pas rester sans bouger. Malgré les parents et proches des victimes ont peur de leur bourreau et ne veulent pas entamer une action entre justice contre ces malfrats. Si ce n'était pas la présence des organisations de défense des droits humains, dans ces régions reculées d'Haïti, le niveau de la violence, le nombre de cas de violation de droits de l'homme serait plus élevé, plus dégradant, plus humiliant. Par contre, des points d'espoir ont été remarqués chez des organisations de défense des droits humains, sœurs qui fonctionnent exclusivement en République dominicaine. Ça vous donne un air d'espoir et la certitude qu'un jour, les deux peuples peuvent se cohabiter, peuvent vivre avec fraternité, comme l'avait dit l'autre. Haïti et République dominicaine sont deux ailes d'un même et seul oiseau. Sachant que le changement ne se produit pas d'un coup, ça se fait graduellement. C'est l'une des raisons qui nous pousse à nous engager dans la longue et difficile lutte pour arriver et atteindre ce changement tant attendu. Voilà. En quelques phrases, comment est la situation des droits de l'homme dans certaines zones frontalières haïtiano-dominicaines? Pour améliorer les conditions de vie des habitants vivant sur les zones frontalières entre Haïti et République dominicaine, pour que les soldats dominicains qui opèrent sans peur, avec toute quiétude, aient eu peur, même pour une fois, le réciproque demande avec supplication au commissaire de la commission de stimuler ces deux gouvernements à une prise de conscience et une prise en charge de leurs enfants et celle de leurs femmes des zones frontalières des deux pays communément appelées zones franches. Recommander au gouvernement d'adopter des mesures progressives en faveur des droits des enfants et des femmes de leurs zones frontalières. D'adopter également des dispositions propres à promouvoir le respect de leurs droits, qui d'ailleurs sont est en accord avec la Constitution de 1987 et les lois haïtiennes et de la Constitution et des lois de la République dominicaine, suivant les engagements internationaux pris par ces États par le biais de leur Parlement. Référer le réciproque à des organisations internationales dans le but d'avoir plus de moyens pour mieux accomplir sa mission qu'est de promouvoir et de défendre les droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre écoute.
Thank you very much for your presentation. And now I will give the floor to the state for 5 minutes. If you can disconnect your microphone, please.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, merci aux membres de la Commission. Et j'attire l'attention de. Je salue les compatriotes haïtiens. Et je respecte quand même le travail accompli. Et bien que j'attire l'attention. Des membres de la commission sur l'exposé. On sent plus qu'on est en train de poser des problèmes et des Dominicains par rapport aux nationaux haïtiens au lieu de la réalité haïtienne. Mais ce qui attire l'attention de la délégation, c'est quand ils disent que, semble-t-il, l'État haïtien n'a rien fait en ce sens. Alors, permettez que je donne un petit peu d'éléments statistiques par rapport à la situation. Et en Haïti, l'État est bien imbu de la problématique de la violence faite aux femmes. D'ailleurs, l'État a manifesté de manière indubitable sa prise de position par le rapport et qui a été fait à Genève au cours de l'année dernière sur le CEDEF, et qu'on appelle en anglais CEDAW. À partir du rapport de CEDEF, l'État haïtien a pris tout un train de mesures. Et à part les lois qui viennent renforcer la situation des femmes par rapport par rapport à leurs conditions défavorables, soit sociales, soit économiques, mais actuellement, l'un des éléments prévus dans la réforme constitutionnelle, c'est que l'on arrive à un quota d'engagement au niveau politique, au niveau du travail, au niveau public pour les femmes. La situation actuelle, c'est comme toute la situation que tout à l'heure on a vu défiler devant nous. On est dans un pays où les femmes représentent 52% de la population. Elles sont majoritaires en nombre. Mais lorsque vous regardez le profil professionnel, c'est que on a plus d'hommes qui travaillent, ou du moins qui ont accès à des travaux dignes, rémunérés, que de femmes. On n'a qu'à regarder dans la politique, etc. Donc, conscient de cet état de fait, on est en train de prendre des dispositions pour venir avec des corrections. Par rapport également à la situation d'accès à l'éducation, à chaque fois que nous avons un homme qui arrive à la licence, pour chaque 6 hommes qui arrivent à la licence, à peine si on a une femme, une fille qui arrive à la licence. Et ceci pour le doctorat, c'est encore pire. Par contre, au niveau de l'école primaire, on a vu un certain équilibre. Et avec le programme de scolarisation universelle, l'État haïtien, de par sa volonté, s'est essayé de colmater cette brèche. Par contre, nous n'avons pas encore, nous n'avons pas les moyens de notre politique. Mais permettez avant que, parce que le temps qui m'est alloué est un petit peu court, permettez que rapidement, que rien que sur la question de frontières, la violence faite aux femmes et que les exposants tout à l'heure ont dit qu'on n'a rien fait, permettez que je fasse un petit peu, je fasse défiler un petit peu les actions de l'État par rapport à cette, à des situations de femmes ou d'enfants au niveau de la frontière. D'abord, l'État haïtien, à travers le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, plus particulièrement, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de la Santé publique et de la Population, l'État haïtien s'applique à adresser une réponse efficace au cas de violence sur les femmes enregistrées dans les zones frontalières. Ces trois entités publiques, membres de la concertation nationale contre les violences faites aux femmes, entreprennent des actions communes avec l'appui des agences de coopération qui sont pour certaines également membres de cette structure tripartite. Les cas de violence étant rattachés à la problématique de la traite des personnes, surtout des femmes et enfants, une attention particulière est donnée à la législation prévenant et réprimant cette pratique. Les deux protocoles facultatifs relatifs à la traite et le trafic des personnes ayant été ratifiés le 12 mars dernier, la prochaine étape est le vote de la loi en cette matière qui est prévue pour bientôt. Une meilleure présence policière dans les zones frontalières permettait à l'État haïtien de mieux répondre à la violence faite aux femmes commises en ces lieux, d'où la perspective d'un projet de mise en place de la police frontalière en collaboration avec la MINUSTAH. Par ces différentes actions et projets en perspective, il est clair que la problématique de la violence faite aux femmes, en général et particulièrement dans les zones frontalières, constitue une préoccupation de l'État haïtien. La réponse donnée est continue et concertée. Permettez que je vous présente seulement les mécanismes de protection institués. Il y a le plan national de lutte contre la violence faite aux femmes, qui est en cours d'application, conçu sur la période 2005-2011. Il a fait l'objet d'un bilan de mi-parcours au mois d'octobre 2008, en mobilisant les structures de la santé publique et de la justice. Des avancées concrètes dans sa mise en œuvre ont été constatées et la synergie dans l'appui des agences de coopération a été obtenue. Messieurs et dames les commissaires, avant cette prise en charge par l'État haïtien, les violences sexuelles étaient simplement considérées comme un délit. Mais depuis quelques temps, okay, une loi a fait des violences sexuelles des crimes et réprimées en tant que telles. Deuxième chose, les éléments de preuve en matière de viol sont des éléments volatiles. Or, dans la législation haïtienne, il fallait que ce fût un centre hospitalier étatique qui donna un certificat médical pour que ce certificat médical puisse être considéré devant le tribunal. Par la synergie, la coopération, ministère de la Justice, Santé publique, ministère de la Condition féminine, on a fait sortir des circulaires et on a changé la pratique en faisant que n'importe quel médecin habilité à fonctionner en Haïti, soit comme chirurgien, soit comme gynécologue, soit comme généraliste, puisse donner un certificat médical constatant des sévices corporels ou des cas de viol. Donc, ça a permis que cette année, bon nombre de gens accusés de crimes de viol, tous ont été jugés et condamnés. Donc, je ne vois pas comment on dit que l'État ne fait rien. le premier centre d'hébergement géré par l'État pour les femmes victimes de violences fonctionne 24 heures sur 24, de même que la ligne SOS Femmes. La mise en place d'un commissariat de police spécifiquement destiné à l'accueil des victimes de violences. Le protocole signé entre le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, ministère de la justice et de la sécurité publique, institution de tutelle de la police nationale, porte sur l'adoption des procédures en matière de viol et en matière d'accompagnement approprié aux femmes victimes. La protection des femmes victimes de violences dans les zones frontalières. L'État haïtien est décidé à porter une attention spéciale à la situation des femmes vivant, travaillant, pratiquant le commerce dans les zones frontalières et à combattre les abus sexuels, agressions et meurtres dont elles sont victimes. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et mon bureau, le secrétaire d'État chargé de la réforme judiciaire, nous l'avons clairement exprimé le 5 décembre 2008 au cours d'un colloque organisé par la société civile avec les autorités judiciaires et policières du département du centre, limitrophe de la frontière. Des mesures ont été prises pour harmoniser les interventions des différentes entités responsables sur le modèle de la concertation nationale contre les violences faites aux femmes. On a monté une campagne de sensibilisation des acteurs de la police et de la justice intervenant dans la prise en charge des victimes de violences dans les zones frontalières. Parce que, avant, en Haïti, le viol ou les violences sexuelles, tout bonnement, même exécutées par les époux, étaient banalisées par les agents de la police ou les autorités publiques. Mais avec la campagne de sensibilisation, avec notre décision de sanctionner tout préposé étatique qui se serait permis de banaliser une dénonciation de viol, eh bien, les choses ont changé, et de beaucoup. Ce n'est pas l'idéal. On n'atteint pas encore l'idéal parce qu'il reste beaucoup à faire. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, Haïti vit d'une sous-administration, d'une sous-capacité administrative par le simple fait que l'on n'a pas les moyens pour être partout. On n'a pas les moyens pour contrôler les 315 kilomètres et de frontières. On n'a pas les moyens pour établir la police, les juges et les commissaires du gouvernement, les médecins légistes dans tous les coins du territoire et particulièrement dans les endroits et enclavés. Donc, ce n'est pas l'idéal, mais l'effort est fait. La sensibilisation et la formation des organisations travaillant dans les zones frontalières, particulièrement femmes sous frontières et les femmes juristes du Nord-Est, en vue de la sensibilisation de la population et d'une meilleure prise en charge pluridisciplinaire et intégrée des victimes de violences. Cette activité est réalisée à travers les bureaux départementaux du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Un projet d'aménagement du territoire consistant à créer des espaces plus sécuritaires dans les villes limitrophes est en cours d'exécution. Les activités à Jacmel, à Belader, la reconstruction de certains commissariats, tels le commissariat de Fonverette, avec des espaces pour femmes, au Fonds national, on vient de mettre un bureau permettant aux femmes d'être prises en charge et reçues de manière digne et intime. Parce que lorsqu'une femme est victime des agressions sexuelles, elle est doublement victime. Parce que, un, elle est la victime dans sa chair, mais moralement, par la façon dont elle est reçue dans le commissariat ou au tribunal, très souvent, au lieu de lui donner la possibilité de dénoncer, ça lui renferme et dans sa position de victime silencieuse. Mais avec le bureau, et Fort National, en toute intimité, avec un lit permettant à la femme victime au moins d'être reçue, de se reposer pour regagner son calme, on est prêt à prendre cette initiative pour les 10 départements. Mais je dois vous dire que ça coûte, parce qu'il faut des médecins légistes, il faut des accompagnateurs et il faut des psychologues. Donc c'est pas facile, mais quand même on se bat pour l'avoir. La sensibilisation et formation des organisations travaillant dans les zones frontalières, je l'ai dit, un projet d'aménagement du territoire, et puis des complexes commerciaux qui seraient installés au niveau et du côté haïtien pour qu'au moins l'on ait une sorte de parité, que l'on ait au moins les mêmes structures commerciales que l'on a du côté de la frontière, afin que nos femmes ne soient pas obligées de s'exposer, parce que s'exposer, elles sont violées le plus souvent parce qu'elles s'exposent à passer la frontière, des fois sans document d'identification, ou du moins, comme elle l'a dit tout à l'heure, par les boucans ou par les trafiquants, tout simplement. Mais voilà tout ce qu'on est en train de faire. On est prêt à faire plus. L'État haïtien et prend à cœur cette situation, mais avec tout le monde, avec les gens de la société civile, avec les organisations de droits humains également, qui ne doivent pas encourager les gens à traverser la frontière aussi. Parce que c'est comme si on cherche des cas pour être épinglés, pour que Haïti soit sous la sellette. De toute façon, ça ne fait pas la joie, ni ça ne fait pas l'honneur, ni à nous qui sommes des représentants de l'État, encore moins à vous qui sommes de la société civile. Président, merci.
Thank you very much. Commissioner Pinheiro.
Je voudrais d'abord saluer le membre du Réciprode. Si partout en Amérique latine et dans les Antilles, c'est difficile de faire des travaux pour la promotion des droits de l'homme, la société civile est en Haïti, se voit en face des mêmes problèmes que le gouvernement et l'État partagent ici avec nous. Alors, je trouve que c'est très important votre effort d'être venu ici pour nous informer à ces sujets. Je voudrais dire aussi que la Commission et le rapporteur sur le droit de l'enfant est très ouvert à la présentation des cas concrets. On peut envoyer de la correspondance à un tiers État qui n'est pas ici, alors je ne vais pas le nommer. Si ces deux cas sont très bien décrits, je serai à votre disposition pour envoyer une lettre d'information sur des cas précis à l'État que vous avez mentionné. J'étais très content d'entendre Monsieur le secrétaire d'État nous informer avec des initiatives extrêmement valables et importantes au sujet de la violence contre les femmes. Mais, si vous me permettez, je voudrais simplement poser quelques questions très objectives avec la situation de la violence contre les enfants. Parce que, comme vous le savez bien, la violence contre les enfants, ce n'est pas un département de la violence contre les femmes. La violence contre les enfants doit recevoir un traitement spécifique. Alors, tous ces progrès que vous avez mentionnés, comme la législation, la question de l'action continue et concertée, le Centre pour la violence, j'aimerais bien savoir quelles sont les actions qui ont été faites vis-à-vis et spécifiquement au sujet de la violence contre les enfants. En 2005, j'ai eu le privilège de visiter le Haïti, qui a été l'objet d'autres visites par le CERCLER et d'autres de mes collègues. Et on a visité justement une ville frontalière, je ne sais pas si la prononciation est correcte, Unamante, c'est ça? Guanamante, excusez-moi. Et alors, justement, où j'ai entendu aussi le problème de trafic d'enfants et des problèmes d'abus sexuels vis-à-vis des enfants. même que je ne suis pas un expert sur Haïti, je ne crois pas que les enfants ont besoin que les ONG stimulent le passage de la frontière, parce que les enfants et les femmes, les familles sont attirés par leurs besoins, les besoins économiques. Donc, la première question, cette question générale, si Monsieur le secrétaire d'État pourrait partager avec nous quelques informations sur des actions similaires vis-à-vis au thème spécifique de la violence des enfants. Et la deuxième question, c'est exactement, pas dans les 315 km de la frontière, mais exactement dans cette région de cette ville, que je n'ose pas répéter le nom, si dans cette petite zone de la frontière, quelles sont les actions que vous pourrez nous indiquer vis-à-vis à la répression du trafic, ou des actions concrètes qui ont été menées vis-à-vis des cas d'abus sexuels contre les enfants dans cette petite zone de la frontière. Je vous remercie énormément pour toutes les informations que le représentant du gouvernement a partagé avec nous. Merci.
Commissioner Roberts.
I'd like to join Commissioner Pinheiro in thanking the members of Recipro for attending before the commission today, coming all the way from Haiti, and particularly to encourage you in being the eyes and ears of the defenseless in that part of Haiti. I wanted to ask you whether or not you are in touch, if you work with NGOs on the other side of the border in the Dominican Republic, to what extent do you have coordination of efforts with NGOs on the other side of the border? I'd like to ask the distinguished representative of the state, what are government-to-government actions being taken to try to stop some of the ills that have taken place, the exploitation of women and children, trafficking, what have you. And also, Minister, does the mandate extend to that area of Haiti? And I know there's a social program attached to Minnesota, and I'd like to ask if it extends to that part of the country.
Because both the petitioners and the state did their presentations shorter than the time they had before. Now we are able to give the floor for 7 minutes to each party. So I will let you know seven minutes. First to the petitioners. Right. No, I was telling you that I will give you the floor for 7 minutes. It's up to you to use the 7 minutes or less, and this would be to answer the questions that have been presented and to add more information that you might think it's important for the Commission to be aware of.
Étant donné que les représentants du gouvernement haïtien ont des mesures contre les violences sur les zones frontalières. Ça veut dire, à ce qui a trait avec les enfants et les femmes violées là-bas, ça répète toujours, on peut dire que même si on a des décisions à prendre, ça veut dire que ça se fait lentement. Et pour dire, les enfants, on ne peut pas les considérer comme les femmes violées parce qu'elles sont des adolescentes. Ça veut dire, une enfant violée, c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire, les personnes n'ont pas vraiment les moyens pour aller dans des centres privés. Si ces gens-là se présentent dans les centres de santé qui sont beaucoup moins chers, ça veut dire elles ne vont pas avoir vraiment les certificats médicaux à temps pour prendre mesures contre ces bandits. Ça veut dire, si on a violé une personne et cette personne-là n'a pas vraiment les possibilités pour aller visiter un docteur dans une clinique privée, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces genre de personnes-là? Ça veut dire, est-ce que vraiment les centres publics ne se fonctionnent pas à temps? Ils sont toujours en grève. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que s'ils sont toujours en grève, ça veut dire, comment est-ce qu'elles vont avoir les certificats médicaux? Et si elles n'ont pas les moyens de payer un médecin privé, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel genre de mesures l'État haïtien peuvent prendre pour aider ces gens démunis qui n'ont personne? Et ceci, ça répète toujours, on dit toujours qu'on va les aider. Si on ne veut pas tout faire d'un coup, mais on peut essayer de faire le mieux possible. Parce que si on n'a pas vraiment une bonne centre de santé dans les zones frontalières, je peux dire, ça veut dire comment est-ce qu'on peut examiner une femme ou un enfant qui a été violé? Comment on pourrait faire ça? Parce que si ces personnes-là n'ont pas vraiment les moyens, comme a dit monsieur tout à l'heure, c'est que c'est pas parce qu'on voulait, comment je peux dire, dégrader notre situation nous-mêmes vie en Haïti, surtout on est de la société civile. Ça veut dire nous aussi on a droit aussi à des centres privés. Si nous-mêmes les membres de l'organisation, si on n'a pas les moyens aussi, si on est violé, nous les femmes qui sommes membres de l'organisation, si on est violé, si on n'a pas les moyens pour aller voir un médecin privé, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un certificat médical? Parce que si on n'a pas le certificat médical, on ne pourrait pas présenter dans les commissariats, dans les tribunaux, tout ça. On doit avoir le certificat médical. Ça veut dire quel genre de mesures qu'on va prendre. Parce que les centres de santé ne se fonctionnent pas à temps. Ils sont toujours en grève. Et ceci, dans les zones frontalières, ils n'ont pas vraiment de centre de santé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ceci, ces gens de cas répètent toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on ne peut pas avoir le certificat médical pour présenter dans un commissariat quelconque, dans un tribunal, pour faire les suites de l'action, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire, si vraiment les gens de la société civile n'ont pas les moyens, nous sommes toujours en grève. Notre plus grand centre de santé, qui est l'université d'État haïtien, ça veut dire, vous le savez très bien, nous sommes toujours en grève. Comment on peut faire? Comment on va faire? ça veut dire si on est toujours en grève. Hein? Comment les femmes violées, les enfants vont faire pour avoir un certificat médical et aussi si elles n'ont pas les moyens, si elles n'ont pas les moyens. Si elles n'ont pas les moyens de prendre un médecin privé. Je suis une femme aussi moi-même. J'ai été victime en plusieurs fois. Ça veut dire, j'ai eu l'aide de mes parents, mais et les autres qui n'ont pas de parents? Et les autres qui n'ont pas de parents? Et aussi, on a des familles reculées dans des provinces. Ça peut aussi arriver à notre famille. Ça ne concerne pas seulement la société civile. Ça concerne en général l'État haïtien qui doit prendre mesure à tous ces gens de problèmes. Ça veut dire, je suis une femme, j'ai été victime par plusieurs reprises. Mais mes parents étaient là, mais et les autres qui n'ont pas de parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si nous sommes toujours en grève, si nous sommes toujours en grève, s'ils n'ont pas les moyens de payer les frais. Hein? On a des mesures à prendre, certes, mais les centres de santé sont toujours en grève.
Thank you. Now I'm going to give the floor to the state for 7 minutes. If you can turn off the microphone, please.
Par rapport aux enfants, justement, lorsqu'on pose les problèmes de violation, de droits humains, bizarrement tout se joint, tout se raccorde, et ça ne peut pas être pris de manière morcelée, détachée. Donc c'est pourquoi on dit que ces problèmes-là sont des problèmes systémiques, et les femmes partent avec les enfants. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, et M. Pinheiro, c'est pas que la problématique de la femme ne soit pas détachée de la problématique de l'enfant, mais c'est par rapport à la frontière haïtiano-dominicaine. Par rapport à la frontière haïtiano-dominicaine, c'est des familles qui essaient de traverser de manière illégale la frontière. Donc très souvent, étant donné que la famille haïtienne, et c'est une famille à 70% monoparental. Et pour des ménages dirigés par des femmes, ils sont plus que 47% dans la société. Donc, les femmes, quand elles partent avec leurs enfants, surtout des enfants en bas âge. Maintenant, par rapport à la problématique de mineurs ou par rapport à la problématique des enfants, tout dépend de l'angle. Si on prend les enfants en conflit avec la loi, les enfants en conflit avec la loi, l'État haïtien a pris des mesures pour que, dans un temps très court, que l'on n'ait pas des enfants en prison, que l'on ait des enfants dans des centres de réinsertion. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, par rapport aux enfants en situation difficile, il y a deux types d'enfants. Quand on parle de violence au niveau de la frontière, au niveau des rues, il y a des enfants qui sont en conflit avec la loi, il y a une gestion. Il y a des enfants en situation difficile ou en situation précaire. C'est-à-dire, c'est des enfants soit qui n'ont pas de parents, ou bien soit qui ont abandonné la maison de leurs parents, ou du moins des enfants qui ont été placés en domesticité et qui se sont échappés de la maison où ils étaient. Maintenant, la situation idéale, depuis 1961 en Haïti, tous les enfants qui traînent les rues sont considérés au regard de la loi haïtienne comme le vagabondage. Et pour des enfants en situation de vagabondage, c'est le centre
d'accueil, le centre de réinsertion pour des mineurs en situation de vagabondage sous l'égide de l'Institut du bien-être social. Mais vous vous imaginez, à l'époque 1961, Haïti avait moins que, ou du moins Port-au-Prince, avait moins que 600 000 personnes, et il n'y avait pas d'enfants vraiment, sinon que des enfants qui parcouraient les rues pieds nus. Il y avait ce fameux chaland en Haïti, des véhicules qui prenaient des enfants qui couraient les rues à pieds nus et les mettre dans un endroit où on pouvait les nourrir, les vêtir et leur donner le pain de l'instruction. Mais maintenant, depuis 1980, il y a Dr Adé, un médecin sociologue, qui a fait une étude depuis 1980. Il y avait déjà dans les rues de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien à peu près 14 000 enfants recensés. Donc vous pouvez vous imaginer maintenant avec l'explosion démographique, parce que la population haïtienne, près de 51% de la population haïtienne, c'est une population jeune et d'enfants entre 0 à 17 ans. Donc vous pouvez vous imaginer la situation que actuellement, même si on voulait ramasser tous les enfants dans les rues, même si on voulait mettre le meilleur commissariat sur la frontière pour les retenir, de toute façon, on n'aurait pas d'endroit pour réinsérer ces enfants. Donc, la problématique est prise en compte. Comme nous l'avons montré tout à l'heure avec la problématique de Cité Soleil, on est en train de voir dans quelle mesure et donner le plus que possible aux enfants démunis la possibilité de rester à l'école, parce qu'il y a une déperdition sérieuse par la question de surager également dans les écoles haïtiennes. Très souvent, les enfants abandonnent parce que, de par leur âge, ils sont obligés d'abandonner et faire autre chose. Maintenant, l'État est en train de voir dans quelle mesure avoir un programme pour les surager et intéresser les enfants à rester à l'école davantage et permettre d'avoir un repas chaud dans certaines écoles. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a un programme de don d'uniformes, il y a un programme de cantine scolaire, mais là encore, on est face à une situation assez délicate où l'offre de scolarisation est en majeure partie servie par le privé. Parce que l'État n'a pas, là encore, n'a pas les moyens de sa politique. Maintenant, c'est par rapport aux enfants. Et on a dit tout à l'heure que si on n'a pas moyen, comment obtenir un certificat médical? Mais je viens de le dire. Depuis la dernière loi incriminant les violences sexuelles, l'État, par le biais du ministère de la Justice, par le biais du ministère à la condition féminine, par le biais du ministère de la santé publique et de population, l'État a imposé la gratuité totale des certificats médicaux suite aux sévices corporels ou aux violences sexuelles. Pas mon médecin, il n'y a pas un médecin qui puisse vous demander de l'argent. S'il vous demande de l'argent, vous vous référez aux structures étatiques, au ministère de santé publique, au ministère de la justice ou au ministère à la condition féminine. C'est vrai, vous parlez qu'on a une offre de service qui laisse à désirer. Justement, on a une offre de service qui laisse à désirer parce que, très souvent, les hôpitaux que l'on a, nous ne pouvons pas, très souvent, répondre à des obligations d'arriéré de salaire ou du moins venir avec la dernière technologie. Donc, c'est comme si là, on est en train de pointer Haïti du doigt parce que Haïti est pauvre. Haïti a un budget d'investissement de 200 millions de dollars américains qui est un budget de l'école primaire dans n'importe quel pays en termes d'investissement. Pour avoir un hôpital, il faut construire l'hôpital. Pour avoir un médecin traitant, il faut payer le médecin. Pour avoir une infirmière, il faut la payer. Pour avoir un lit. Et surtout, on ne donne pas d'aide aux pays pauvres pour les hôpitaux, parce qu'on dit que très souvent, toute la population est une population ambulante, mais malade. On donne plutôt aide pour des soins ambulatoires. Voilà pourquoi c'est difficile d'avoir de beaux centres et de bonnes cliniques qui fonctionnent. Merci beaucoup.
Well, thank you for the presentations, and the commission would like to say that on behalf of the commission would like to say that if you have any further information that might be of interest for the commission on this matter, please send it to us whenever you can. Thank you very much. The next hearing will take place at 4:15. Muy buenas tardes. Vamos a...